Aujourd'hui, Totemic, c'est Swan Arlo, comédien.
Je préfère quand même la vraie vie au cinéma. Enfin, je préfère la vraie vie au jeu. Et j'ai un petit garçon et c'est un temps qui ne se rattrape pas.
Donc vous ne boxez pas dans la catégorie de le cinéma, c'est mieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillage, les trains filent tout droit.
Non. Après, oui, c'est mieux, justement. En fait, comme c'est mieux, comme c'est magique, comme c'est en dehors du monde, il ne faut surtout pas que ce soit trop souvent. Et on peut prendre très vite l'habitude, je pense. Puis parce qu'en plus, j'ai une vie, je veux dire, très banale, quoi. C'est-à-dire, je fais le ménage, je fais les courses, je lave le linge, machin, je me fais engueuler parce que, je sais pas quoi, la soupe, elle est pas bonne, parce que j'ai oublié de mettre le cahier de texte dans le cartable, enfin bon. Et en même temps, c'est hyper important d'être là. Voilà.
Une échappée, un tube, un pola avec Swan, Arlo, c'est Totemic. Devenir comédien n'était pas dans ses plans, d'autant qu'une bonne partie de sa famille travaillait déjà dans le spectacle. Alors Swan Arlo a choisi les arts déco. Et comme vous vous en doutez, le métier de comédien a fini par le rattraper, pour des séries télé d'abord, pour le cinéma ensuite, et pour la scène à 5 reprises. En ce moment, il est au Théâtre de l'Œuvre à Paris pour interpréter une pièce de Pinter. Avant ça, il s'est laissé le temps de vivre pleinement le tournage et le destin mondial du film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Il joue l'avocat de l'accusé, ce qui lui a valu son 3e César, après celui du meilleur acteur pour Petit Paysan, d'Hubert Charuel, après celui du meilleur second rôle pour Grâce à Dieu, de François Ozon. Pour cet épisode de Totemic, j'ai retrouvé Swan Arlo au Théâtre de l'Œuvre et voici comment ça s'est passé. Je suis arrivée seule au théâtre, avec mon matériel dans un sac à dos. L'attaché de presse m'a accueillie et guidée jusqu'aux loges. Souvent, quand il n'y a personne, j'aime bien dire « il y a quelqu'un ?» comme dans les films. Mais là, c'est elle qui a dit
« Swan ? »
Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Enchantée.
Ce bruit, ça veut dire que j'ai perdu la maîtrise du micro.
On se met là, on met à table.
Ouais.
Si vous voulez poser des trucs et tout.
Exactement. Je démêle mes pieds, là.
Là, comme souvent, j'ai eu recours à une chanson pour lancer la conversation. Et pour aujourd'hui, jeudi, Wandering Star du groupe Portishead, c'est le choix de Swan Arlo pour Totemic ce matin. Et c'est parti. On est en 94, donc Portishead, la voix de Beth Gibbons. Vous avez 13 ans.
Ouais, alors j'ai pas écouté ça quand j'avais 13 ans. J'ai écouté, je pense, quand j'avais 20 ans. En fait, c'est des années où j'habite à Strasbourg, où j'intègre cette école, les arts décoratifs. C'est des années incroyables, c'est des années fondatrices. Et il y a cette musique, c'est incroyable, la musique comme d'un coup ça fait défiler des lieux, des histoires, des gens, des sensations comme ça, c'est fou. Et en fait depuis que vous m'avez demandé ça, j'arrête pas de le réécouter, ça fait plusieurs jours que je l'écoute. Et tout remonte, c'est extraordinaire, parce qu'en fait j'ai 20 ans... Je viens de quitter le giron maternel, j'arrive dans cette ville qui est une ville inconnue, donc tout est à conquérir. Je rencontre des gens dans cette école où il y avait un mélange des genres, certainement plus que dans une école de théâtre ou une école de cinéma. Il y a des gens qui ont fait des études scientifiques avant et qui font des espèces de petits dessins comme ça, etc. Fascinant. Il y a des gens qui viennent pieds nus à l'école. C'est extraordinaire, ces années-là. C'est la nuit, c'est la fête. Maintenant, je suis devenu un vieux, quoi. Maintenant, je suis couché à 22h avec mon bouquin. J'adore.
Vous avez quel âge ?
Très bientôt 44. Mais quand je dis un vieux, enfin, je veux dire, je suis devenu un père. J'adore me lever à 6h du matin, me coucher tôt. Enfin, voilà. Mais cette époque-là, c'est une époque beaucoup de la nuit. Mais pas uniquement la fête. Il y a la fête, mais il y a aussi écrire tout seul, rêver des choses, être dans une, voilà, dans ce processus un peu créatif. Finalement, je suis précisément dans des années où j'essaie de retrouver cette force créatrice que j'avais à 20 ans. Mais parce qu'on était comme ça, une bande de joyeux lurons qui, à la fois, on s'amusait, on riait, on s'aimait, et à la fois, il y avait beaucoup de création comme ça, de petites bulles partout dans l'air qui éclataient, qui se recomposaient. Qui... Je dis ça avec le recul, puisque quand j'y étais, j'étais là un peu... Bon, je ne savais pas ce qui nous arrivait. Et puis moi, j'étais quand même un Parisien qui débarquait à Strasbourg. Donc, avec toute la naïveté, toute la prétention de... Mmh. Ah tiens, ils ont la FNAC ici. Mais vraiment, genre le mec qui découvre le monde, quoi.
Le mec qui est jamais sorti de Paris, un peu, quoi.
Le mec qui est jamais sorti de Paris ou de sa banlieue un peu campagne, vers Rambouillet.
Il était temps.
Il était temps. Et donc, c'est grâce à cette école, en fait, que je suis parti, parce que j'ai tenté les concours à Paris. Je les ai pas eus. Ça m'a confronté à mes peurs, à des idées un peu arrêtées, comme ça, un peu préconçues sur la vie, sur les gens, sur tout, quoi. C'est vraiment la découverte du monde, quoi. Cette voix, cette manière de chanter, en fait, cette chose qui est assez profonde, qui est un peu douloureuse, qui est comme arrachée. On sent que ça vient de loin, quoi.
C'est comme une plainte, mais ça chiale pas.
Exactement, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose auquel je m'attache beaucoup sur cette idée de la douleur fondatrice, c'est-à-dire une douleur dont on ne va pas se plaindre, mais en fait qui fait la personne qu'on est, la personne qu'on est devenue, le rapport au monde, notre manière d'aimer, notre manière de comprendre, de partager.
Est-ce que vous vous êtes déjà laissé déborder par vos émotions sur scène ?
Oui. Du coup, quand quelque chose lâche complètement, quoi, c'est comme le barrage qui s'ouvre, qui explose et... Là, je dis, bon, bah là... là, j'ai lâché. Et ça, c'est pas mal. On s'est vidé de soi et on s'est rempli d'autres choses. C'est bien d'être un peu en vacances de soi.
Ah oui ?
Ah oui. C'est Philippe Catherine, je crois, qui disait ça. Il disait, moi, ce que j'aime bien quand je joue, c'est que je suis en vacances de moi-même. Et je trouve ça assez juste.
Mais quand on se fait déborder par ses émotions comme ça, ça laisse une trace, j'imagine.
Vous voyez cette chose quand vous vivez un drame personnel, qu'il soit amoureux ou la mort de quelqu'un, vous avez beaucoup pleuré et vous pleurez plus. Et on vous appelle et on dit ça va, et le simple fait de savoir, de recommencer cette phrase à dire machin est mort, un tel m'a quitté, les mots, et donc là il y a cette mémoire d'une émotion très forte, les mots reviennent et on repart. Et donc a priori le but du jeu est de retenir.
Et donc de ne pas se laisser déborder, justement.
Et donc de ne pas se laisser déborder, et donc de permettre aux spectateurs d'être eux-mêmes débordés. Parce que regarder un comédien qui s'effondre en larmes, ça peut être assez touchant, voilà, mais on est très extérieur. Regarder un comédien qui s'empêche de pleurer, c'est bouleversant, je crois.
Et puis ça laisse de la place.
Ça laisse de la place, c'est ça.
En ce moment, Swann Arlo est au théâtre pour jouer Trahison, une pièce de Harold Pinter mise en scène par Tatiana Vial. C'est l'histoire d'un adultère, d'une amitié et d'un aveu. Une femme dit à son ancien amant avoir avoué les années d'amour qu'ils ont vécues à son mari. Elle s'appelle Emma, l'homme avec qui elle a eu une liaison se prénomme Jerry. Il est joué par Swann Arlo. Ça commence dans un pub, à midi, Une pinte de bitter pour lui, un verre de vin pour elle, il se sourit, il la regarde, et la pièce va remonter le temps du trio amoureux entre Emma, Jerry et le mari. Marie Kaufmann, Swann Harlow, Marc Arnaud. Retour au bar du théâtre avec Swann Harlow, à qui j'ai demandé « Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ?»
Alors au départ, c'est très simple, en fait, cette écriture de Pinter.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est souvent des discussions un peu banales, et ils ne disent pas les choses sont entre les lignes, il y a du double sens partout. Ce qui est étonnant, c'est que dans son écriture, il y a des pauses et des silences assez précis. Et en fait, au départ, quand on a appris le texte et tout ça, on ne faisait pas tout à fait attention à ces pauses, à ces silences. Puis à un moment, on s'est dit, bon, apprenons précisément les pauses et les silences du texte. Et là, c'est incroyable. Comme d'un coup, ça met en perspective des choses du dialogue. C'est dans le silence, en fait, que certains mots vont exister plus fort que d'autres. Et donc, c'est une écriture qui a l'air très simple, qui est en réalité absolument brillante. Et en même temps, il y a ce côté léger d'un triangle amoureux. Donc à jouer, c'est aussi très plaisant.
C'est la cinquième fois que vous êtes au théâtre, je crois, depuis que vous êtes comédien. Et vous êtes autodidacte. Quels sont les avantages d'être autodidacte ?
Pas avoir de règles à suivre, quoi. De règles qu'on nous aurait données, genre le jeu c'est comme ci ou c'est comme ça.
De pas savoir ce qu'on fait, parfois.
Pas savoir ce qu'on fait. Et c'est certainement ça qui fait la force, mais en fait, si ça fait la force, bon bah, tant mieux peut-être parfois pour les rôles, mais tant pis pour soi. C'est difficile de jamais savoir ce qu'on fait. Et donc c'est un peu la panique, quoi. Et bizarrement, en tournage, souvent à mi-course à peu près, au milieu du tournage, à un moment j'ai l'impression de trouver quelque chose, j'ai l'impression que ça y est, j'y suis. Et là, normalement, on vient me voir, on me dit « mais qu'est-ce qui se passe, Swann ? T'es plus dedans ?» Donc c'est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, de ne rien maîtriser, de ne pas savoir, c'est ça qui donne du résultat. Et donc dès qu'on commence à se sentir un peu confortable, tout le monde nous dit « mais enfin, ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Mais alors comment ça se cultiverait, ce côté, je serais presque tenté de dire, cette innocence, quoi, qui fait qu'on est dedans, qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous avez l'impression de maîtriser un peu le truc, on vous dit « t'es plus dedans ».
Ben, je pense que ça se cultive grâce aux autres. C'est-à-dire, à mon avis, le grand danger du succès, c'est quand tout le monde vous dit « vous êtes formidable » alors que vous commencez à être carrément nul. Mais si on vous le dit plus, en fait, que vous êtes nul, eh ben, vous commencez à penser que vous êtes formidable. Et là, c'est le début de la fin, quoi. Donc, à mon avis, cultiver ça, c'est avoir quand même la possibilité de gens autour de soi qui vous disent « ah, attention, là, t'es un peu content de toi. Là, tu fais un peu le malin ». Et alors là, on redescend, mais très très vite.
Ouais, mais pour que les gens vous disent ça, il faut que les gens se sentent la permission de dire un truc comme ça. Enfin, se sentent autorisés, plutôt.
Oui, c'est sûr. Mais bon, ça nous pend au nez à tous, quand même, de se prendre très au sérieux à un moment et du coup, d'amorcer la descente, quoi.
Voici Andrea Laszlo De Simone, Un momento migliore. C'est le titre de cette chanson.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero. Ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore di il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto. E ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre.
Swann Harlow, comédien et dans Totémique. Après avoir évoqué ses débuts aux Arts Déco à Strasbourg en me disant « De toute façon, j'étais pas très doué », il est rentré à Paris et puis...
Je faisais des petits rôles à la télé, dans des séries policières, des choses comme ça. Et ça me permettait quand même de gagner un peu de sous. Là encore, j'étais pas très doué. Mais par contre... Non. Ah non, non, pas du tout. Bah, j'étais quand même un peu terrorisé par la caméra. J'étais pas très à l'aise. En fait, ce qui m'a permis de travailler au début, c'est que j'avais une tête bizarre. Et donc,
c'est-à-dire ?
Bah, j'avais un physique très étrange, quoi, un peu extraterrestre comme ça, ou je sais pas très bien, un physique bizarre, quoi. Et donc, je pense que les gens avaient envie de, enfin, des gens ont eu envie de me filmer, malgré le fait que j'étais pas très doué. Et bon, j'ai toujours été très très content d'être sur un plateau de tournage. Par contre, là c'est un endroit où j'étais heureux.
Même si la caméra vous faisait peur, vous étiez content d'être là?
Ouais.
Alors qu'est-ce qui est plaisant? Parce que la caméra c'est quand même le truc essentiel du plateau quand même.
Ce qui est plaisant c'est quand ça tourne pas.
Alors vous aimiez les plateaux, mais surtout quand la caméra était éteinte en fait.
Bah oui, enfin... Oui.
Ok.
Oui, cette effervescence là. C'est un bateau extraordinaire, mais donc il y a ceux qui sont tout là-haut sur le mât, il y a ceux qui doivent, je sais pas, faire, je connais rien à la navigation, qui doivent tendre les voiles, il y a ceux qui sont dans la cale, qui doivent tourner le machin, il y a ceux, bon voilà. Et tout le monde se retrouve pour bouffer, et tout le monde se retrouve éventuellement pour boire un coup. Il y a quelque chose de très vivant, de très joyeux, que j'ai toujours aimé.
Mais depuis le début, là, il y a un mot que vous avez prononcé extrêmement régulièrement.
Ah. Merde.
Non, c'est le mot métier.
Ah oui.
Donc, ce côté-là, même j'imagine, dans vos rôles, c'est un élément qui compte. Mais d'ailleurs, dans votre filmographie, les métiers sont importants. Vous vous êtes fait connaître du grand public avec Petit Paysan, où vous étiez paysan. Mmh. L'un des grands succès internationaux, c'est Anatomie d'une chute, où vous êtes avocat.
Et pour y faire croire, il ne faut surtout pas le jouer. Et justement, Justine Triet, quand elle est venue me voir pour l'avocat de Sandra dans Anatomie d'une chute, elle m'a dit « Moi, je viens te voir parce que je veux surtout pas que tu joues un avocat. Je veux pas que tu fasses d'effet de manche. » Et en fait, je n'ai passé tout le tournage qu'à essayer de faire des effets de manche. Je veux dire, c'est génial de jouer un avocat. Donc on a envie de dire « Oui, mais vous ne rendez pas compte !» et tout ça. Elle me dit « Non. Non, non, tu arrêtes ça tout de suite. » Et elle me redescendait tout le temps. Mais en fait, on est quand même toujours un peu des gamins, on a envie de jouer. On a toujours envie de forcer le trait, quand même. Mais il faut retenir les chevaux. Parce que jouer la fonction, a priori, c'est se tromper. Puisque...
On voit le jeu, en fait.
On voit le jeu, voilà. Et que personne ne joue aux boxeurs, aux maçons, aux journalistes, voilà, chacun est Et c'est ce que m'avait dit Hubert Charvel pour Petit Paysan. Quand je lui ai dit, mais je sais pas vraiment où il est, le paysan, là, etc. Il m'a dit, mais il est nulle part, en fait. C'est toi, tu traites des vaches. Il dit, ça fait un mois que tu traites des vaches. Donc voilà.
Et alors, c'est marrant parce que la voix que vous avez choisie pour aujourd'hui, c'est un comédien qui, au contraire, a l'image, en tout cas pour une partie de sa filmographie, d'une folie et d'une démesure. Donc c'est Michel Serrault. Et j'ai choisi des films où il n'est pas trop dans la démesure, soit Garde à vue, Un échange avec Lino Ventura, Soit Nelly et Monsieur Arnaud, Où ils sont... Le choix est difficile.
Ah oui.
Où ils s'engueulent avec Emmanuel Béart. Donc vous choisiriez quoi ? Ventura, Serrault
ou... C'est dur parce que c'est vraiment deux films que j'aime énormément, mais je vais dire Nelly et Monsieur Arnaud.
Alors, dans Nelly et Monsieur Arnaud, film de Claude Sautet, Serrault interprète un juge qui propose à une jeune femme en difficulté financière, incarnée par Emmanuel Béart, de dactylographier ses mémoires. Et donc ils se voient, de rendez-vous en rendez-vous. Je ne sais même pas comment qualifier leur relation en fait, parce qu'elle n'est pas charnelle. Mais il se passe quelque chose entre eux en tout cas. Et là, ils s'engueulent.
Bon alors qu'est-ce qu'on disait ?
Vous trouviez qu'ostracisme...
Ah oui, j'avais marqué ça sur un papier que je retrouve plus.
Peut-être que vous compliquez.
Je ne complique pas. J'essaie d'avoir un minimum de rigueur. Si je suis seul et si ça vous emmerde... Ah, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que depuis un certain temps, vous n'êtes plus là. Vous traînez la patte.
Je ne crois pas.
Mais si, moi, je vous assure. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui s'ennuie, qui baille, qui arrive en retard.
Je vous ai dit pourquoi j'étais en retard.
D'abord parce qu'on n'avance pas.
Soyez pas de mauvaise foi.
Mais si, on piétine. Pourquoi ne pas le dire ? Moi non plus, je n'en ai rien à foutre de ce bouquin, rien du tout. Si vous saviez à quel point je m'en fous, ma chaîne plus que personne ne lira.
Bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, qu'on laisse un peu reposer la chose, si vous êtes fatigué.
Mais qu'est-ce que c'est que ce discours d'infirmière ? Je ne suis pas du tout fatigué. Si c'est pour dire ça, il vaut mieux que vous taisiez.
Bon.
Ah oui ? Vous êtes au-dessus de tout ça. Oh, pendant un moment, vous aviez pris la parole, vous aviez des points de vue. Vous pinailliez sur des virgules. Vous faisiez même des confidences. Et puis là, le silence qui retombe, opaque. Un jour, vous disparaissez décomposé pour aller au chevet d'un mari subclaquant. Ben, qu'est-ce qu'il est devenu, au fait ? Il a récidivé, il est vivant, il est mort, mystère total.
Il va bien, merci.
J'ai l'impression que vous êtes intimidé.
Non, mais... J'sais... En fait, c'est... Bon, j'adore ce film, Nelly et Monsieur Arnaud, c'est un film que j'ai regardé beaucoup de fois.
Ah oui ?
Il y a aussi sa voix, parce que là, en entendant l'extrait, il y a aussi sa voix qui est extraordinaire. Et on voit que lui, qui est quand même un peu haut, un peu fort, elle est très en dessous. Et en fait, c'est hyper puissant. J'étais séduit tout de suite par les deux, en fait. Je suis séduit par eux, je les aime. Donc j'ai envie de leur amour. Et leur amour est impossible. Et donc il n'existe que... comme ça, dans un espace...
Dans cette relation indéfinissable et impalpable.
Ouais. Dans ces séances de travail où lui va réciter son livre et elle va le taper. Et en fait, il y a un espace comme ça entre fiction et réalité dans lequel un amour existe, mais il est impossible. Et d'ailleurs, s'il devenait réel, ce serait gênant. Enfin, ce serait... On dit, bah non, il est trop vieux. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup là-dedans, dans l'idée que ça existe quelque part. Donc là, on est témoin d'une chose très subtile, délicate, mais qui n'advient pas.
Pourquoi Serrault, déjà ?
C'est vraiment mes 15 ans, enfin mon adolescence, ce moment où voilà, j'avais ma chambre au niveau du grenier, il y avait une petite porte et dans le grenier il y avait une vidéothèque. Mon beau-père enregistrait tous les films sur VHS. Donc il y avait Cassavetes, il y avait les Bergman, il y avait les Blier, les Piala, les Sautés. Enfin bon. Et donc j'ai traversé cette époque-là, ces acteurs-là, un cinéma qui est très différent du cinéma d'aujourd'hui.
C'est une façon de parler aussi. C'est une langue. Quand on écoute les interviews de Serrault, souvent à la fin il dit n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est
ouais.
Une façon un peu datée aussi.
Mais complètement. Et il y a aussi c'est Depardieu dans Loulou qui dit penses-tu ? Donc c'est une manière de parler qu'on a... voilà, je sais pas si c'est triste ou pas, mais en tout cas qu'on a perdu. Donc c'est vraiment assez jouissif à écouter. En fait, il chante. Mais comme dans Buffet froid, la séquence du début à la défense avec Depardieu Serrault, il dit « Vous avez une tête de comptable ?»« Mais je suis comptable !» L'autre « J'ai toujours un couteau dans ma poche !» Voilà. Il chante. Aujourd'hui, on peut pas faire ça. Aujourd'hui, on va dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Attends. Et en fait, moi, j'adore. Mais j'adore pas parce que j'ai envie de le faire. J'adore parce que j'ai grandi avec ça. Et avec ces dialogues, avec ce côté de la langue, voilà, les dialogues de Michel Audiard, de Blier, de femme.
Serrault, il y avait une sorte de frénésie de tournage. Je regardais quelques interviews, on lui demande combien vous avez fait de films, il dit bah je sais même pas, tellement il en a fait. Vous, au contraire, quel rythme vous choisissez?
Bah j'essaye le moins possible. Ouais.
Ce qui est très rare. Pourquoi le moins possible?
En premier lieu, ma vie. Je préfère quand même la vraie vie au cinéma. Enfin, je préfère la vraie vie au jeu. Et j'ai un petit garçon et c'est un temps qui ne se rattrape pas.
Donc vous ne boxez pas dans la catégorie de le cinéma, c'est mieux que la vie? Il n'y a pas d'embouteillage, les trains filent tout droit.
Non. Après, oui, c'est mieux, justement. En fait, comme c'est mieux, comme c'est magique, comme c'est en dehors du monde, il ne faut surtout pas que ce soit trop souvent. Et on peut prendre très vite l'habitude, je pense. Puis parce qu'en plus, j'ai une vie, je veux dire, très banale, quoi. C'est-à-dire, je fais le ménage, je fais les courses, je lave le linge, machin, je me fais engueuler parce que, je sais pas quoi, la soupe, elle n'est pas bonne, parce que j'ai oublié de mettre le cahier de texte dans le cartable, enfin bon. Et en même temps, c'est hyper important d'être là. Voilà. Et puis, par exemple, Anatomie d'une chute, pendant un an avant, j'ai pas tourné. Et pendant un an après, j'ai pas tourné. Donc, ça veut dire qu'en deux ans, j'ai fait un film. Et franchement, c'était pas facile. Il y a des moments où j'étais très déprimé. Après coup, quand on voit le succès extraordinaire de ce film, la vie qu'il a eu, qu'on a eu avec ce film, je me dis, en fait, c'est formidable qu'il ait été seul. Parce que on s'épuise soi-même, certainement, à faire beaucoup de choses. Encore une fois, je parle pour moi. Et on épuise les autres. T'es encore, il y a Tartampion. Alors, cette fois-ci, il a mis une blouse. Cette fois-ci, il a mis une casquette de cheminot. Et là, attention, qu'est-ce qu'il fait Il fait du taekwondo. Voilà. Donc, à un moment, il faut aussi donner des espaces de vide pour soi-même se permettre de re-remplir un peu tout ça et laisser l'espace pour que, de nouveau, les autres puissent y croire.
S. C. H. SCH 2000.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. Et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. À mépris pour que nous le restions. Pas d'ingestion des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. En taf au 3, 8, on dit loup, on pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. J'vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et j'bois ce whisky sans glace. J'suis né avant les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles. Et les cernes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Gitaf. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prise classe. La crâne est bien, défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante, quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse, j'fais des sourires aux camés. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de parler comme les damnés. Les années 2000, j'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à descendre, j'pense à vrai. J'ai la libé avant le mobile.
Aujourd'hui, Swann Harlow, comédien et dans Totémique.
Il reste deux choses.
Ouais.
C'est une carte blanche.
Ouais.
Je sais pas si vous...
Oui.
C'est bon ?
Oui.
Et puis une séance photo.
Oui.
Alors là, on commence par quoi ? On fait votre carte blanche ?
Oui.
Allez.
Allez.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est, c'est Résister de Salomé Sacquet. Et donc, c'est un chapitre qui s'appelle Le poison de l'indifférence. Ça commence par une citation de Stéphane Hessel. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire je n'y peux rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain, une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. Quand Stéphane Hessel exhortait ses lecteurs à l'indignation en 2010, il ne prêchait pas une colère stérile, mais une action transformatrice. Aujourd'hui, face à la montée de l'extrême droite, notre indignation est un rempart si elle se mue en résistance active. Ne laissons pas l'indifférence gagner. Mais l'indignation à mauvaise presse ces temps-ci, on l'associe souvent à une facilité d'esprit promue par des moralisateurs de salon. Il y a pourtant motif à l'indignation en France, où les files d'attente pour l'aide alimentaire s'allongent chaque mois, où 330 000 personnes vivent sans domicile fixe, et où plus de 800 personnes meurent chaque année dans la rue sans que cela n'émeuve grand monde. Nos dirigeants restent indifférents au scénario scientifique des rapports du GIEC, nous conduisant collectivement à la catastrophe, et cela ne nous indigne pas outre mesure. Les discours intolérants, discriminatoires et haineux à l'encontre des minorités fleurissent dans l'espace public. Ils prospèrent parce que nous ne nous en indignons pas. Je ne prétends pas donner de solution magique, mais à mes yeux, rien n'est pire que de s'accommoder d'une réalité qui nous dérange. Comme le rappelait le pasteur Martian Niemöller en 1950, on n'est pas concerné par le péril de l'extrême droite jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester.
Il est clairement politique, ce texte.
Oui. Les temps sont graves. C'est trop important. Enfin, en tout cas, c'est trop important pour moi.
Oui, parce que tout le monde ne se dit pas ça.
Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est important de le faire, mais en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Peut-être d'une manière un peu idiote, un peu égoïste, simplement pour me coucher un peu plus en paix, je ne sais pas. C'est comme la question du péril écologique, c'est comme de se dire « de toute façon, c'est trop tard, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit ». Mais alors dans ces cas-là, si ça ne sert à rien, enfonçons notre cul dans un canapé, allumons la télé et crevons en silence. Mais il faut rester en mouvement, en fait. Enfin, je veux dire, c'est trop important d'être en mouvement, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est comme ça qu'on est vivant, c'est comme ça qu'on considère nos enfants, c'est comme ça qu'on considère le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est la moindre des choses. Oui, je trouvais ça important de terminer par une note politique. Et puis, ce livre, je crois qu'il est très récent. Je l'ai lu très récemment. Et je me suis dit, je ne sais pas si les gens sont au courant qu'il existe. Je vais en lire un bout. Et il y aura peut-être, en écoutant, il y aura peut-être certaines personnes qui vont l'acheter, qui vont le lire, qui vont en parler à d'autres gens. Voilà, là, c'est important de se réveiller, quoi, de se soulever. C'est très inquiétant, ce qui nous arrive. La séquence politique qu'on est en train de traverser est quand même affligeante.
En choisissant Michel Serrault, vous parlez comme comédien. En choisissant Wandering Star, vous parlez comme le jeune homme que vous avez été. Mmh. Et en choisissant Résister de Salomé Sacquet, vous parlez comme citoyen.
Ouais. Et c'est vrai que l'opportunité qu'on a quand on a une voix publique, enfin, c'est-à-dire qu'on nous donne une parole publique, on nous donne une tribune. Je trouve ça intéressant de profiter de ça pour parler en tant que citoyen, puisque c'est une place qu'on ne fait pas aux citoyens.
Comment ça ?
Ben, ce que je veux dire, c'est que plein de gens ont beaucoup de choses à dire et des choses intéressantes et sont engagés dans une volonté de transformation, d'amélioration de nos vies, et ils n'ont pas la parole. Donc à partir du moment où on l'a, qu'est-ce qu'on en fait de cette parole ? Et ben, peut-être à un moment, on s'en saisit pour parler, non pas en son propre nom, mais en tant que citoyen, donc au nom des citoyens, ou en tout cas au nom des citoyens de gauche.
Au nom de ceux en quoi vous croyez.
Exactement, oui.
Bon, je me dépêche pour la photo, parce que l'heure tourne. Donc, c'est une séance...
On cache la marque, faut pas qu'on fasse de la pub.
Ah oui, parce qu'il y a une marque sur votre...
Ouais.
Sur votre pull.
Pas de pub.
Bah, mettez la main dessus.
Comme ça. Là, c'est bizarre, quoi.
Attendez, je vais me mettre de telle sorte à ce qu'on
ça
la voit pas.
D'accord.
Ouais, je pense que okay. Le mieux, ce serait...
C'est vraiment le plus intimidant de tout le...
Mais je pense qu'elle va... De toute façon, il va y avoir le flash parce que je suis face à un miroir.
Je l'enlève comme ça ?
Ouais, allez-y, tirez dessus.
Je pense que ça va rester blanc. Ça serait marrant, non, que ça fasse ça. Ça vous fait ça parfois ?
Jamais.
Que ça n'apparaisse pas ?
Si,
ah
là.
Non, ça apparaît.
Ouais.
C'est marrant, c'est assez angoissant. Cette apparition comme ça, un peu fantomatique, non ? C'est marrant, j'ai une sorte de sourire un peu poli. Comme les photos de classe, quoi. On a un petit sourire un peu figé.
C'est votre côté juvénile.
Oui, j'en ai bien peur. Mais... mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces photos ? Vous avez un endroit où vous les consignez ?
Oui.
C'est vrai ?
Ouais, dans un grand cahier.
Ah, génial.
Et après, je les mets en ligne sur les réseaux sociaux.
Ok.
Vous êtes d'accord ?
Ah bah, je vais regarder. Bah... Allez, oui.
Ça va ?
Oui.
Ah, mais vous avez enlevé vos lunettes pour la photo ?
Ouais. je les mets pas tout le temps, je les mets pas très souvent.
C'est une petite coquetterie.
Une petite coquetterie. Bah, en fin de compte, c'est vrai, je suis assez coquet, je fais semblant de pas l'être, mais ouais.
Ce sera la révélation finale.
Ouais, très bien.
Merci beaucoup, Swann Harlow.
Merci beaucoup, Rebecca Manzoni.
Swann Harlow est sur scène avec Marie Kaufmann et Marc Arnaud pour jouer Trahison, une pièce d'Harold Pinter mise en scène par Tatiana Vial. Pardon. Il joue au Théâtre de l'Eure à Paris jusqu'au 30 mars. Koyen Guyen, réaliste totémique, et c'était avec Gaspard Guy Bourget ce matin. Merci à Perrine Malinge pour la programmation de nos invités, à Ilinka Negulesco pour la préparation et à JB Audibert pour le choix de nos disques.